Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Spécial hommage à Étienne Tshisekedi. Et comme vous le savez, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Étienne Tshisekedi Wamulumba est décédé mercredi 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans. L'opposant historique congolais s'est arrivé mardi 24 janvier après-midi à Bruxelles en provenance de Kinshasa pour subir un check-up médical en Belgique. Cet homme politique qui a traversé toute l'histoire politique de la RDC s'est surtout illustré par son opposition au maréchal Mobutu dans les décennies 80 et 90. Après le régime Mobutu, Étienne Tshisekedi s'est également opposé à Laurent Désiré Kabila qui a renversé le maréchal puis au fils de ce dernier, Joseph Kabila. Au fil des années, Étienne Tshisekedi est devenu la figure de l'opposition congolaise. Pour parler de ce grand homme politique, grand témoin reçoit dans cette émission Bruno Tshibala, compagnon des luttes d'Étienne Tshisekedi. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement. Monsieur Tshibala, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, M. Tshibala, quelle a été votre réaction à l'annonce de la mort d'Étienne Tshisekedi?
Lorsque le président Tshisekedi est parti pour la Belgique, c'était pour un simple contrôle médical. Il devait revenir 10 jours après. Et donc, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on pouvait me dire que le président Tshisekedi est décédé. C'est ainsi que quand j'ai appris ta triste nouvelle, j'étais effondré, j'étais peiné et choqué, j'étais inconsolable. Moi qui suis aujourd'hui le plus ancien de ses compagnons des luttes, je ne pouvais que me retrouver dans cette situation. Je suis révolutionnaire comme lui-même. Les hommes du combat ne pleurent pas, mais ils s'engagent à poursuivre la lutte. Et donc, c'est la mine éplorée que je suis jusqu'à aujourd'hui, après la disparition de ces grands hommes, de ces grands combattants que j'ai vus sur le terrain, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba.
Bruno Tshibala, on dit que vous, l'entourage de Tshisekedi, saviez que le président était, le président Tshisekedi, je veux dire, était très mal en point et le communiqué de l'UDPS qui parlait du check-up, c'était juste pour la consommation extérieure parce que les gens se posaient des questions finalement sur l'état de santé d'Étienne Tshisekedi.
C'est une fausse affirmation, même. Les membres de la CENCO qui l'ont vu la veille de son départ avaient trouvé un homme toujours fort, égal à lui-même, le regard piquant, étant un homme de grandes convictions de principe. Donc il n'est pas exact de dire que la famille savait qu'il était agonisant, le président était bien portant. Nous qui sommes habitués à le voir à n'importe quelle heure, à le voir tous les jours, nous savions qu'il... ne se plaignait de rien, mais qu'il avait simplement une petite fatigue qui était sûrement due au fait qu'il travaille beaucoup, il reçoit, il traite les signataires, et ça pouvait lui donner cette petite fatigue. Et donc je m'inscris en faux contre cette rumeur qui laisse croire que la famille savait qu'il était agonisant. Ça n'a jamais été le cas. Cette mort, c'est une surprise. Combattant.
Bruno Tshibala, parlons de votre rencontre avec Étienne Tshisekedi. D'abord, à quel moment vous vous êtes lancé en politique?
Je suis entré en politique très jeune, à peine âgé de 25 ans. Encore aux études, j'étais avec quelques amis marxistes comme moi, et très engagés dans le combat politique, d'abord dans la défense des idées qui sont chers aux hommes de gauche, mais ce qui nous avait réunis, c'était essentiellement l'hostilité au régime de Mobutu. C'est ainsi que, effectivement, dans les années 80, on a pris contact avec ceux qui deviendront plus tard, parce que nous nous sommes connus au mois d'avril 80. Nous avons publié une série de tracts ensemble contre le régime.
Vous et qui?
Moi, certains de mes amis, d'accord, avec les députés Tshisekedi, Ngalula, Makanda, Kanana et Kibasa, qui était lui membre du bureau politique, élu, à ce titre. Et c'est après avoir fait connaissance avec tous ces aînés que nous avons déclenché la lutte contre le régime. D'abord, c'était une lutte clandestine. On s'est rencontrés. Ils finançaient la publication des tracts. Et en 80, après la rédaction de la lettre ouverte qui était adressée à M. Mobutu...
Vous parlez de la lettre des 13 parlementaires.
La lettre des 13 parlementaires, oui. Au mois de décembre 1980, M. Mobutu avait appelé ça le complot de la Saint-Sylvestre. Quand cette lettre a été signée, elle continue à être signée, c'était d'abord les 13 qui avaient signé, ils ont été arrêtés, d'abord M. Ngalula, les autres se sont constitués prisonniers, et c'est comme ça qu'après avoir été relégués, parce que condamnés par la commission de discipline du MPR, nous nous sommes retrouvés en mars 81 pour en fait lancer l'idée de créer un parti et donc de décréter la rupture avec Monsieur Mobutu. Et donc c'est une rencontre importante, la rencontre du 26 mars 1981, lorsque les 13 étaient déjà condamnés et relégués, nous nous sommes retrouvés pour décider de créer l'UDPS et on attendra quand ils vont rentrer à Kinshasa pour concrétiser l'idée de créer un deuxième parti.
Alors c'était avec qui, cette idée-là de créer un parti politique?
Il faut dire que tous les 13 n'étaient pas ensemble. La réunion préliminaire réunissait Étienne Tshisekedi, Joseph Ngalula, Anaclet Makanda, Isidore Kanona et Bruno Tshibala. Et je dois ajouter Grégoire Dikonda et Kiba Samaliba. C'est eux qui ont pris part à la première rencontre préliminaire qui avait décidé le 26 mars 1981 de la création du parti. Lorsque Mobutu libère les 13 au mois de décembre et que tous reviennent ici, ils trouvent que l'idée avait déjà été lancée et c'est ainsi que, à la création du parti, il a été décidé que seuls les élus vont signer la lettre d'information qui était adressée à Mobutu, lui annonçant la création du parti le 15 février 1982. En ce moment-là, les non-parlementaires que nous étions, nous n'étions pas autorisés à signer parce que Mobutu pouvait invoquer une conspiration, un complot et condamner les gens à la pendaison comme il a fait en 1966 avec les Kimba, Mahamba, Anani et Bamba. Et donc voilà pourquoi il avait décidé que seuls les élus vont signer cette lettre d'information à M. Mobutu.
Et donc Bruno Tshibala a participé à la création de l'UDPS. Vous êtes un pionnier.
J'ai participé à la réunion préliminaire de la création et à la création de l'UDPS le 15 février 1982.
Et depuis ce jour-là, vous êtes resté aux côtés de Étienne Tshisekedi.
Je dois dire que Étienne Tshisekedi est le modèle de constance, mais il faut ajouter que Bruno Tshibala a toujours été à ses côtés depuis les années 80 jusqu'à sa mort. C'est la mort qui vient de me séparer de mon aîné, de mon compagnon de lutte, de mon président, que Étienne Tshisekedi Wamulumba.
Étienne Tshisekedi était quel genre de personne?
Je dois d'abord commencer...
On le décrit souvent comme étant une personne imprévisible. Vous qui avez vécu avec lui pendant très longtemps, vous qui avez travaillé avec lui, est-ce que vous confirmez cela?
Ceux qui faisaient ces jugements sur la personne de Tshisekedi ont été obligés au fil des années de se déjuger, donc de changer d'opinion. Je dois dire, moi qui l'ai connu, qui ai été au front avec lui, que c'est fondamentalement un homme de caractère. Lorsque Étienne Tshisekedi est convaincu de la justesse d'une cause, lorsque Étienne Tshisekedi est convaincu que ça c'est la vérité, c'est un homme qui ne fléchit pas. C'est un homme qui ne trahit pas ses principes et ses convictions. Et ses convictions allaient jusqu'à en faire l'homme le plus ténace, le plus courageux, le plus opiniâtre que j'ai connu dans ma vie.
Ces premières années de Tshisekedi dans l'opposition sont faites d'emprisonnement et des relégations pour lui et ses compagnons. Mais entre-temps, il y a des gens qui disent qu'il s'opposait au maréchal Mobutu la journée, alors que le soir, ils se rencontraient, c'était des très bons amis.
Ceux qui disent ce genre d'absurdité, ce sont des plaisantins. C'est parce qu'ils n'ont pas été avec nous au combat pour affirmer des choses aussi invraisemblables. Étienne Tshisekedi, comme je venais de le dire, c'est un homme de caractère. Chez lui, c'est ou c'est non, ou c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. C'est au fur de l'âge à 48 ans que Tshisekedi a décidé de combattre le régime de Mobutu parce qu'il estimait que Mobutu avait un discours sibyllin. C'était en fait de la supercherie politique. Le discours est bon, mais en réalité, c'était un tyran, un despote. Tout concourait à son pouvoir. C'est un pouvoir personnel, un pouvoir personnalisé. Et Tshisekedi s'est révolté contre ça pour dire, si nos aînés ont lutté pour l'indépendance, l'ont obtenu à la table ronde, ce n'était pas pour permettre à un seul individu de jouir des richesses du pays, de chosifier le peuple, et donc de personnaliser le pouvoir. Nous devons réinstaurer la démocratie parce que la lutte pour l'indépendance était une lutte pour la liberté et pour la démocratie. Et c'est comme ça qu'il a avec tous les compagnons que je venais décider ici, déclenché la lutte pour éradiquer la dictature. Et Tshisekedi était tellement opposé à Mobutu, au point Mobutu a été obligé, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Mobutu a été obligé de recruter quelques médecins, neurologues, pour qu'ils disent que Tshisekedi est fou. C'est tellement la virulence, l'hostilité, l'aversion de Tshisekedi à l'encontre de Mobutu était telle que cela ne pouvait provenir que d'un homme anormal. Et donc, pour vous dire que Tshisekedi n'a jamais été avec Mobutu, au contraire, vous avez vu ce qu'il a fait à Mobutu en plein jour. Mobutu a été tout simplement disqualifié et le président Tshisekedi explique cela en disant il fallait le ramener à son expression la plus simple parce que il se croyait être un demi-dieu au Congo. Je devais les démystifier et c'est ce qu'il a fait.
Alors il était très hostile au régime Mobutu, mais là en 91, il a quand même été nommé premier ministre par le même Mobutu qu'il combattait.
Je voudrais préciser une chose ici. En fait, le président Tshisekedi, je reprends ses propres termes, il n'a jamais combattu Mobutu. Il combattait le système qui avait été mis en place par Mobutu qui était le despotisme qui détruit le peuple, qui rend indigne le peuple congolais. On était bon que pour danser et l'applaudir. Il a dit, ce système, c'est un système honni, c'est un système qui n'honore pas notre peuple, il doit le combattre, c'est ce qu'il a fait. Et comment expliquer qu'il ait été nommé en 91? Mais en 91, qu'est-ce qui se passe? L'UDPS venait, après 10 ans de combat acharné, après 8 ans d'existence de l'UDPS, dans la lutte, dans la clandestinité, l'UDPS venait de vaincre Mobutu, venait de défaire Mobutu. Mobutu, le 24 avril, pleure. Il dit, comprenez mon émotion. On a vu un Mobutu tout petit après la victoire de l'UDPS. Parce que, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, lorsque l'UDPS disait qu'il y aura un deuxième parti au Congo avec le combat de l'UDPS, Mobutu disait, moi vivant, il n'y aura pas un deuxième parti. Donc c'était un pari entre l'UDPS et Mobutu. L'UDPS qui dit nous allons instaurer le pluralisme politique, Mobutu dit moi vivant, pas un deuxième parti. Et donc le 24 avril, nous avons battu Mobutu. Mobutu a accepté d'instaurer le pluralisme, même si par ailleurs il l'avait limité à 3. Mais c'est déjà le pluralisme. Ça correspondait plus ou moins à ce que le président Tshisekedi, rédacteur principal de la Constitution de 67, avait inséré à l'article 4 de la Constitution de 67 qui disposait qu'en République démocratique du Congo, il ne pouvait pas y avoir plus de 2 partis. Une réponse à ceux qui pensent et affirment que Tshisekedi avait contribué à l'instauration de la dictature. Faux et archi-faux. Déjà en 67, Tshisekedi met à l'article 4 de la Constitution qu'il ne peut pas y en avoir un. Il ne peut pas y en avoir 3, donc c'est 2 partis. C'est le modèle américain qu'il avait donc inspiré, le bipartisme. Donc, pour vous dire qu'après avoir vaincu M. Mobutu, il avait été logique que ce soit un homme qui incarne l'aspiration du peuple au changement et qui venait de le concrétiser, qui puisse diriger le gouvernement des transitions. M. Mobutu s'est entêté en nommant Lunda Bululu pour diriger le premier gouvernement de transition. Le peuple n'a pas été d'accord. C'est ainsi qu'il s'est résolu à la réalité, aux contraintes politiques de l'heure, pour nommer Étienne Tshisekedi, après les concertations du Palais de Marbre, premier ministre. C'était tout à fait logique et compréhensible.
Il n'est pas resté longtemps à ce poste. de Premier ministre parce que le 1er novembre, il est remplacé de la même année.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Mobutu, à son tour, avait une haine contre cet homme qui l'a démystifié. Mobutu n'en voulait pas. Donc c'était une façon pour lui d'assouvir sa vengeance sur Tshisekedi. Voilà pourquoi la cohabitation entre Mobutu et Tshisekedi n'était pas du tout facile. Un peu comme disent les Camerounais, que deux caïmans ne peuvent pas vivre dans un même marigot. Hein? Tshisekedi, qu'il a combattu, et je rappelle une phrase de Tshisekedi en juillet 1991, Mobutu sait que moi, au pouvoir, sa place, c'est en prison ou en exil. Ce n'était pas tombé dans les oreilles d'un sourd, surtout pas d'un félin comme Mobutu. Il savait que Tshisekedi au pouvoir, sa place devait effectivement être soit en prison, soit en exil. Voilà pourquoi il a combattu Tshisekedi. Il ne pouvait pas lui permettre d'exercer tout tranquillement les fonctions de Premier ministre.
Alors la cohabitation était très difficile entre les deux, mais en 92, Tshisekedi a été élu à la Conférence nationale souveraine, Premier ministre, donc il a encore travaillé avec Mobutu.
Je précise une chose pour ceux qui nous écoutent. Après que Mobutu ait décrété le multipartisme par son discours du 24 avril, le président Tshisekedi, dans un grand meeting à Lille-Saint-Thérèse, a dit: mes chers frères, c'est vrai que nous l'avons défait, nous avons le pluralisme, mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est faire l'union, le rassemblement de tous les démocrates et obtenir le départ de Mobutu. Ensuite, nous allons organiser une conférence nationale souveraine qui va déterminer les conditions d'une nouvelle démocratie dans notre pays. Parce que le mal suprême dont a souffert le Congo, c'est M. Mobutu. Donc si nous allons à la conférence avec M. Mobutu, étant le mal suprême dont a souffert le pays, il va encore déranger. Les événements lui ont donné raison. Parce que nous n'avons pas suivi Tshisekedi, nous sommes allés à la conférence avec Mobutu. Évidemment, c'est tous les conférenciers qui avaient estimé que le départ de Mobutu aurait un coût très très élevé en termes de coûts humains. On le laisse, on va aller aux élections, il va partir. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait comment Mobutu a nui à cette grande rencontre qui était la conférence nationale. Et c'est le peuple congolais réuni en conférence qui avait préféré que, comme Mobutu reste, il faut que Tshisekedi soit le premier ministre qui doit conduire le peuple aux élections. C'est dans ces conditions que, élu par la conférence nationale souveraine, M. Étienne Tshisekedi a été plébiscité premier ministre élu de la CNS et donc appelé à collaborer avec Mobutu. Encore une fois, je rappelle ce qui s'est passé. Mobutu l'a combattu. Il a créé des problèmes parce que le 2 décembre 1992, Mobutu, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ni la compétence, a révoqué illégalement, arbitrairement et injustement l'élu de la CNS qui était le Premier ministre Étienne Tshisekedi.
Donc c'était pas facile entre Mobutu et Tshisekedi, mais comment expliquer qu'en 97, alors que les troupes de l'AFDEL avançaient vers Kinshasa, Étienne Tshisekedi ait accepté d'être nommé Premier ministre par Mobutu, même s'il y est resté quelques jours seulement avant de démissionner?
Oui, vous faites bien de poser cette question, madame. Avant que l'AFDEL arrive à Kinshasa au mois de mai, Étienne Tshisekedi avait dépêché un délégué rencontré à Goma l'ex-président feu Laurent Désiré Kabila. Donc le président Tshisekedi estimait que Mobutu ayant été défait par l'UDPS et condamné en exil intérieur, parce qu'il résidait essentiellement à Badulité, à Kawele, il ne venait plus ici. C'est dans ces conditions que le président Tshisekedi avait estimé que ce que l'AFDEL était en train de faire était nécessaire pour nous permettre d'en faire partie définitivement M. Mobutu. Donc il y a eu cette jonction, il y a eu cette entente avec l'AFDEL pour faire partir Mobutu. Alors, quand M. Mobutu se permet au mois d'avril 1997 de le nommer Premier ministre, mais le président Tshisekedi n'était pas d'accord avec ça. La preuve est que dans le gouvernement qu'il a mis en place, il n'y avait aucun mobutiste. Il avait repris le gouvernement de la CNS, auquel il avait ajouté quelques personnalités de la place, et une grande partie était réservée à l'AFDL. C'était aux yeux de Mobutu un défi, un refus. Donc, le président Tshisekedi n'avait pas accepté de collaborer avec M. Mobutu. À cette date-là, il a rejeté cette offre parce que dans le gouvernement qu'il a créé, il n'y avait pas mis un seul mobutiste. Au contraire, c'était un gouvernement UDPS AFDL.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Spécial hommage à Étienne Tshisekedi, grand témoin, reçoit pour vous aujourd'hui Bruno Tshibala, compagnon de lutte d'Étienne Tshisekedi. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du rassemblement. Monsieur Tshibala, l'AFDL arrive au pouvoir, Mobutu parti. Tshisekedi fait face au régime de Laurent Désiré Kabila. Alors que vous venez de nous dire que les deux s'étaient retrouvés pour voir dans quelle mesure ils pouvaient faire partir le président Mobutu. Mais une fois l'AFDL arrivé à Kinshasa, Tshisekedi s'oppose à Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'était passé?
Non, il faut d'abord revenir dans les contextes pour comprendre l'incident qui a créé en quelque sorte la divergence. Aussitôt que le président a été informé de l'arrivée du président Kabila à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, il attendait d'aller le voir, le saluer et parler avec lui comment les deux forces, l'opposition historique qui a combattu la dictature au pays et l'AFDL, comment ils allaient se mettre d'accord pour diriger la période de la transition avant d'aller aux élections. Et quand la fille dépêchée par la présidence, la fille Lumbala, fille de l'ex-secrétaire d'État à la Défense du gouvernement Lumumba, Jacques Lumbala, est venue le voir chez lui pour lui dire « Le président Kabila veut vous rencontrer. » Le président Tshisekedi a dit « Ça, c'est très bien. » Il s'est organisé. Nous l'avons accompagné. Mais au lieu de nous amener au palais de la nation où résidait fait Laurent Désiré Kabila, on l'a conduit à la primature où il rencontre monsieur Bouguera, de Ogressas Bouguera. Et quand il arrive, c'est Bouguera qui lui demande de s'asseoir pour qu'il parle. Il a dit non, je suis venu d'abord pour saluer mon frère. Mon frère, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila et non de Ogressas Bouguera. Et pour avoir dit que je suis venu pour rencontrer mon frère, Bouguera va s'énerver, et il va balbutier quelques mots, et c'est comme ça que lui, Bouguera, décidera que le président rentre. Il devra d'abord faire rapport à M. Laurent Désiré Kabila, avant qu'il se rencontre. Et c'est comme ça que le président est resté. Je vous fais grâce de ce qui s'est passé en ce moment-là. Vous aurez compris que cet incident a fait que le point de départ était mauvais. Et ensuite, Bouguera, qui m'a reçu au nom du président, il dira qu'on souhaiterait que le président Tshisekedi constitue une délégation de 4 juristes, et nous aussi, il y aura 4 personnalités, vous allez vous voir, vous parler, parce qu'il était question, comme l'exigeait le président Tshisekedi, de mettre en place un cadre juridique consensuel qui va nous permettre de travailler ensemble. Nous avons eu une série de rencontres, mais avant que nous puissions conclure, et d'ailleurs il y avait une rencontre au sommet, nous étions déjà en route le 2 août 1998 pour que le président Kabila Tshisekedi se rencontre au palais de marbre. Malheureusement, pendant que nous étions en train de quitter la parcelle du président Tshisekedi sur Pétunias Alimété,
Une rébellion éclate.
C'est le ministre d'État, Gaëtan Kakoudi, paix à son âme, qui m'appelle pour dire conseiller Bruno, il y a une situation très grave. Le pays est agressé. Goma et Bukavu sont déjà occupés par les troupes. C'est lui qui parle. Par les troupes rwandaises, donc je ne peux pas mettre la vie de mon aîné Étienne Tshisekedi en danger, mais sinon, le président Kabila était déjà à son attente, ce n'est qu'une partie remise, voyons voir comment ça va se passer, parce que déjà, quand le camp Tchatchi est attaqué par les troupes rwandaises ici, dans ces conditions, ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc pour vous dire que tout avait été mis en place pour que ils puissent se rencontrer, mais il y avait ce problème de cadre juridique consensuel qui posait aussi le problème. Et voilà pourquoi, malheureusement, le président Tshisekedi et le président Kabila se rencontreront que l'année suivante à Lubumbashi, alors qu'il était en relégation à Mupompa chez lui, le redoc de Mbujumayi, M. Monga, avait été réquisitionné pour le prendre et l'amener à Lubumbashi, où ils se sont vus avec le président Kabila. Mais le président Tshisekedi insistait toujours qu'avant qu'il se rencontre, notre équipe des quatre juristes de l'UDPS et donc de l'opposition à l'époque, parce qu'il y avait les bâtonniers Nyembo, qui n'étaient pas de l'UDPS mais qui étaient dans la coordination de l'opposition, qui en faisait partie. Donc nous devions rencontrer cette rencontre pour éviter qu'elle ne se passe pas bien, parce que nous avions affaire à deux hommes de caractère, Tshisekedi comme Kabila, chacun aurait voulu égaliser sa légende, donc ça pouvait mal se passer. Nous n'avions pas préparé, je dois dire, avouer ici, que cette rencontre ne s'était pas déroulée dans des conditions où elle se serait déroulée si nous l'avions préparé, c'était donc à Lubumbashi.
Qu'est-ce que ces deux personnages s'étaient dit lors de cette rencontre?
Lors de cette rencontre, c'était essentiellement comment Tshisekedi et Laurent Désiré Kabila pouvaient se mettre ensemble pour sauver la nation qui était du reste attaquée par, à l'époque, comme on le disait, le RCD sous la manipulation du Rwanda, etc. Donc, ils devaient se mettre ensemble. Et pour se mettre ensemble, travailler ensemble, en tant que fils du pays, en tant que nationaliste, pour relever la situation du pays.
Jusqu'au jour où Laurent Désiré Kabila a été assassiné, Tshisekedi et Kabila n'ont jamais travaillé ensemble. Ils ne sont pas arrivés à un compromis, à se mettre d'accord.
C'est le cas de le dire, parce qu'après cette rencontre, il n'y a pas eu une deuxième, et Laurent Désiré Kabila faisait face à une rébellion qui, à l'instant même, était sur le point même de prendre la capitale. Vous savez qu'ils avaient débarqué jusqu'à Moanda, et donc dans ces conditions d'une guerre qui sévissait dans le pays, ils ne se sont pas vus, et dans l'entretemps, le président Étienne était obligé de faire une tournée à l'extérieur, parce qu'il tenait toujours à ce que la guerre ou la deuxième rébellion se termina par un accord, par un compromis, et fort heureusement, au mois de juillet 99, il y a eu la signature de l'accord de paix et de cessez-le-feu à Lusaka, où le RCD, le MLC, le gouvernement de Kinshasa, donc le gouvernement Laurent Désiré Kabila, avait signé un accord de cessez-le-feu et s'était engagé à ce qu'on tienne un dialogue inter-congolais qui interviendra en 2002 à Sun City, en Afrique du Sud.
Vous dites qu'il est parti en tournée à l'extérieur. Vous l'avez accompagné dans cette tournée, M. Tshibala?
Malheureusement, je ne l'avais pas accompagné. Il a été accompagné par nos représentants à l'extérieur. Vous savez que l'UDPS est le seul parti de la RDC qui a des représentants dans tous les pays, y compris dans les îles du Pacifique. Donc, il y a beaucoup de cadres qui œuvrent à l'extérieur. Certains de ces cadres l'ont accompagné en Belgique, en France, jusqu'aux États-Unis d'Amérique, parce que au mois de septembre 98, M. Tshisekedi avait conçu un plan de règlement de la crise en proposant un dialogue, et ce plan avait été proposé au secrétaire général des Nations Unies. Il était parti aux Nations Unies pour défendre ce plan qui consistait en ce que la guerre se termina par un compromis, par un accord de paix et cesser le feu.
Alors, Laurent Désiré Kabila décède, c'est le fils qui lui succède, Étienne Tshisekedi, encore une fois, s'oppose au pouvoir Joseph Kabila.
Oui, évidemment, c'était, il n'y avait pas eu un compromis. Il n'y avait pas eu un compromis, mais il avait senti quand même un changement de temps, un changement de méthode, parce que Joseph Kabila s'était engagé dès le premier discours d'investiture qu'il a prononcé, si ma mémoire est bonne, le 26 janvier 2001, il s'engage à aller vers le dialogue inter-congolais tel que prévu au chapitre 5 de l'accord de paix de cesser le feu de Lusaka. Et voilà pourquoi le président s'est mis à se préparer pour aller à ce dialogue qui aura lieu effectivement au mois de février 2002.
En 2006, l'UDPS décide de boycotter les élections. En 2011, finalement, Tshisekedi revient au pays pour participer à ces élections de 2011 en tant que conseiller de Tshisekedi, vous qui étiez proche de lui. Est-ce que cette décision prise par le président vous plaisait?
Non, il faut dire qu'à Sun City, nous avions convenu un certain nombre de préalables qui devraient être mis en œuvre avant d'aller aux élections. C'était donc essentiellement la neutralisation des groupes armés à l'est du pays, c'était de commencer le processus électoral par le recensement général et ensuite l'enrôlement, l'identification des électeurs, l'enrôlement avant de passer aux élections et un minimum de redressement de la situation, etc. Et donc ces préalables n'avaient pas été réalisés avant d'aller aux élections. Le président estimait que dans ces conditions le processus électoral était vicié et pour ces raisons il estimait que les conditions ne permettaient pas à l'UDPS d'y aller. Les combattants, dans leur grande majorité, partageaient cette analyse. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas dire que ça a été une décision imposée par le président au parti. C'était une analyse partagée par l'ensemble du parti. Mais il y a toujours un groupe qui n'était pas d'accord avec ça et qui l'a exprimé après. Mais la majorité partager l'analyse du président que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'UDPS participât.
Et en 2011, est-ce que les conditions étaient réunies?
En 2011, je crois que vous avez suivi le président lui-même parler, je le reprends. Il a dit, même si les conditions ne sont pas réunies, ne pas y aller serait non-assistance à un peuple en danger. Je vais y aller et je gagnerai. Et c'était ça.
Alors Bruno Tshivala, parlant de l'avenir de l'UDPS, on sait qu'il y a quand même des problèmes sérieux au sein de ce parti politique. On sait que c'est Tshisekedi qui est arrivé à mettre l'unité, à réunir toutes les petites dissensions au sein du parti. On s'inquiète de l'avenir de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs, tous ces militants qui se posent des questions sur ce que deviendra l'UDPS sans Tshisekedi?
Vous avez raison. L'UDPS n'est pas le parti de ceux qui sont membres de l'UDPS. L'UDPS, c'est un patrimoine national. L'UDPS a commencé par être un mouvement de libération nationale avant de devenir parti politique classique après le 24 avril. Et donc il y a des raisons pour que tout le monde s'inquiète de l'avenir de l'UDPS. Parce que l'UDPS symbolise donc la lutte pour les changements, la lutte pour la démocratie. Donc c'est un bien précieux et sur lequel veille tout le monde. Je dois dire que, à son retour le 31 juillet dernier, le président a presque exprimé son testament politique en disant il faut réaliser l'unité du parti, la cohésion du parti, la réconciliation pour ceux qui avaient des problèmes, pour ceux qui avaient pris la liberté par rapport au combat, à la ligne du parti, au statut et règlement intérieur. Donc le président Tshisekedi est revenu avec l'idée de recréer l'unité, la cohésion, la réconciliation.
Il a réussi?
Il a réussi parce que si vous observez attentivement l'exécutif actuel et d'autres structures, vous voyez que c'est cet appel C'est cette volonté qui a été exprimée, traduite, parce que tout le monde se retrouve. Donc je pense que, contrairement à certaines inquiétudes du reste fondées, nous allons surprendre dans le sens que l'UDPS doit rester unie. C'est l'unique façon d'honorer le combat et la volonté de Tshisekedi. De voir cette œuvre qui a fait tant de morts, qui a fait tant d'amputés, tant d'aveugles, de borgnes. Moi-même, je porte les stigmates de la torture, des brutalités du régime Mobutu. Et donc, le plus grand service, le plus grand bien que nous puissions rendre à notre président, à notre héros, c'est de rester unis, de préserver l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un parti où vous avez un homme avec ses enfants, ses beaux-frères, et ça se limite au niveau des statuts, dans une mallette. Non, l'UDPS, c'est le peuple congolais. L'UDPS, c'est tous ces gens, à travers toutes les provinces. Vous avez aujourd'hui, dans quel parti politique aujourd'hui, vous n'avez pas un ancien de l'UDPS? Mais comme le président cessait de le dire, tout le monde n'a pas la même endurance, la même force de conviction. Il y en a qui ont fléchi, mais il faut que tout le monde se retrouve. Parce que l'UDPS porte en lui cette fierté du peuple congolais qui a dit non au régime de dépravation de Mobutu, et donc il faut préserver ce patrimoine précieux qu'est l'UDPS. C'est un engagement que nous prenons de ne pas galvauder cette œuvre. Elle doit rester unie et elle doit continuer, même pour les autres générations futures.
Bruno Tshibala, combattant de l'UDPS, vous avez été vous-même aussi plusieurs fois arrêté.
Ah bien sûr, ça a été mon lot quotidien. Tu prends, ça fait 36 ans de combat aujourd'hui. Je peux dire sans fausse modestie que lorsque nous allons enterré avec honneur et dignité le président Tshisekedi, je reste l'opposant le plus ancien et le plus constant. Donc je suis un vieux routier de l'opposition, je suis un ancien combattant, et donc j'ai connu toutes sortes de tribulations. J'ai été arrêté, j'ai été torturé. Heureusement, je n'ai pas été relégué. J'avais manqué à la relégation quand elle est intervenue en 85 pour la plupart des dirigeants. Mais pour le président Tshisekedi, elle est 13. C'était tous les jours. On vous a lu sa biographie. Et donc, j'ai connu tout. La souffrance, toutes sortes de privations, des sacrifices. Mais, un peu élève de Tshisekedi, je ne pouvais mettre le paquet là où il aimait. Et donc, je n'ai jamais été ailleurs qu'à l'UDPS. Je suis donc à ce jour le plus ancien opposant ici après le président Tshisekedi.
Il y a cette controverse entre le gouvernement et l'UDPS autour des obsèques d'Étienne Tshisekedi. C'est quand même choquant de voir comment les gens s'y disputent autour de la dépouille mortelle du président de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe finalement?
Non, madame, lorsqu'un grand homme de la trempe du président Tshisekedi meurt, c'est tout à fait normal qui est toutes sortes de suggestions, de propositions, de contre-propositions, c'est tout à fait normal. Ce que je dois dire, c'est que le parti a mis en place un comité organisateur du funérail. Et donc ce comité, évidemment, en rapport avec la famille des Lys disparus et avec les autres partenaires, vous savez que Étienne Tshisekedi n'a pas été que président de l'UDPS. Déjà, au sortir de l'université en 61, il est le premier docteur en droit. À peine qu'il est reçu par Monseigneur Gillon comme premier docteur en droit, il est proposé recteur ou directeur général de l'ENDA, École nationale d'administration, qui venait d'être créée parce que à l'accession du Congo à l'indépendance, le pays souffrait d'une carence criante de cadres. Il n'y avait pas assez de cadres. On vous a appris qu'il y avait que 10 universitaires, mais dans des filières autres que le droit, les sciences politiques, etc. Donc, Tshisekedi et propulsé une semaine après qu'il ait reçu son diplôme docteur en droit, recteur, donc directeur général de l'ENDA. Et après avoir été directeur général de l'ENDA en 61, en 65, il est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Léonard Moulamba. Après donc, le pronunciamiento de M. Mobutu. Après avoir été à l'intérieur, il est passé à la justice, de la justice au plan. Et ensuite, il a eu une vie parlementaire, vice-président
et donc,
de l'Assemblée, ambassadeur au Maroc, et que sais-je encore. Donc pour vous dire que c'est en même temps un homme d'État qui a exercé d'éminentes fonctions au niveau de l'État. Donc, il va falloir, avec tous les partenaires...
Entre lui, le gouvernement
l'État. Donc, arriver à lui faire des obsèques officielles, grandioses, pour recadrer et honorer sa mémoire. Nous sommes encore en train de nous atteler à confectionner, à peaufiner un programme. Quand il sera prêt, on le rendra public. Donc, s'il y a des propositions, des suggestions, etc., c'est tout à fait normal, compréhensible. Il s'agit de qui ? D'un baobab qui tombe. Tshisekedi n'appartenait pas qu'à sa famille, n'appartenait pas qu'à son parti, et même au rassemblement. Tshisekedi appartenait à la nation congolaise. Même l'Afrique est en deuil aujourd'hui, parce que le combat de Tshisekedi a inspiré beaucoup d'Africains. Donc, les obsèques du président Tshisekedi devront se faire à la dimension de l'homme.
Alors, Monsieur Tshibala, l'UDP conditionne les rapatriements de la dépouille par, entre autres, la mise en place du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre 2016. Est-ce que ce n'est pas monter les enchères,
finalement ? Madame, je vous ai dit, quand un homme comme Tshisekedi s'écroule, et c'est pareil ailleurs, il y a des suggestions, des propositions, etc. Deux thèses sont en présence. Il y a une première thèse qui dit la dépouille doit être rapatrié et enterré après le parachèvement des discussions au niveau du centre interdiocésain pour arriver à avoir un gouvernement autre que celui de Badibanga. Il y en a qui pensent que après le décès de Tshisekedi, comme ça se passe dans les traditions, tout s'arrête, on enterre d'abord dans l'honneur et la dignité et le lys disparu, et on revient à nos sujets habituels, à nos moutons, etc. C'est deux thèses qui s'affrontent. Je confirme, l'UDPS a opté pour la première thèse de conditionner le rapatriement à la poursuite des discussions. Il appartiendra à la CENCO, qui est au courant de la position qui a été prise par l'UDPS, de décider de la convocation de pour parler. J'espère que les discussions vont donc devoir reprendre.
Monsieur Tshibala, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Je salue la mémoire de ces grands hommes. Genio Papou, un homme qui a le courage, la détermination, la ténacité, l'opiniâtreté d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. On croirait un homme qui avait été créé avec les côtes d'une autre espèce. Et j'ai beaucoup de preuves pour affirmer que c'était un homme hors norme. Il est parti, c'est toujours la mort qui vient emporter des hommes dont on n'aurait pas souhaité qu'ils disparaissent. Mais parce que la mort est inscrite dans le rendez-vous de la vie des hommes, et elle serait devait partir, il est parti. Notre engagement, c'est de multiplier les Tshisekedi, d'en faire une centaine. Nous pensons qu'avec ça, nous pourrons avoir des gens qui défendent l'état de droit, la justice, le bien-être et tout ce qui concourt au développement d'un pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Bruno Tshibala. C'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.